RFI, c'est la revue de presse. Bonjour Théo Renondon.
Bonjour.
Et à la une ce matin, les mois en RDC au lendemain des importantes inondations qui ont fait au moins 30 morts dans le pays.
Oui, les images de chaos de Kinshasa sont à la une de toute la presse congolaise ce matin. Des rues entières englouties sous une eau boueuse ocre, des voitures emportées par des torrents et des maisons défigurées par le courant. Vous l'avez dit, 30 morts, au moins, un bilan toujours non définitif. Kinshasa, ville en apnée, noyée sous un ciel d'encre, décrit le journaliste Jérémy Assonko sur le Forum des As dans un reportage édifiant. La vie s'est arrêtée net. Ce ne sont pas les klaxons ni les cris des enfants qui éveillent les rues, mais les clapotis menaçants de l'eau qui s'infiltre, qui envahit, emporte tout sur son passage. Le journal en ligne décrit la vie d'aujourd'hui, celle de ceux qui ont tout perdu et qui s'organisent comme ils le peuvent. Je cite, des jeunes du quartier torse nu et pieds nus dans l'eau sale secourent les plus vulnérables, ils improvisent des radios, transportent des personnes âgées sur leurs épaules, des femmes distribuent du pain, du thé chaud. Mais cela ne suffit pas. L'ampleur du désastre dépasse les gestes de bonne volonté. Les appels à l'aide se multiplient, souvent sans réponse, dénonce le site d'information, le Forum des As.
Oui, parce qu'au-delà du désarroi, c'est aussi la colère qui règne ce matin dans les médias congolais.
Papa, tu as laissé tes enfants dans la rue, titre mediacongo.net, qui a suivi la visite du président de la RDC, Félix Tshisekedi, dans les rues délabrées de Kinshasa ce lundi. Le président est venu au chevet des sinistrés, mais a subi les foudres des habitants selon le média en ligne. Je le cite, Félix Tshisekedi a tenté de trouver des réponses devant une foule qui demandait où étaient passés les projets divers de travaux sur la voirie dans la capitale ou les problèmes de caniveau à Kinshasa. Les pluies et les inondations font régulièrement des victimes, affirme mediacongo.net. Faute d'entretien et de réseaux adéquats, les voies d'évacuation des eaux sont généralement bouchées par des immondices. Fin de citation.
Autre titre en Afrique aujourd'hui, les tensions entre l'Algérie et le Mali qui montent encore d'un cran.
Oui, on en parlait déjà hier. Tout cela a commencé par un drone malien abattu par l'armée algérienne, Alger qui affirme qu'il était entré dans son espace aérien, ce que réfute Bamako. Résultat, une crise diplomatique. Ce dimanche, le Mali a rappelé son ambassadeur à Alger, suivi par ses alliés du Burkina et du Niger. Et ce lundi, en réponse, l'Algérie a fermé son espace aérien au Mali, qui a répliqué en faisant de même. L'Algérie qui a également rappelé ses diplomates du Mali et du Niger.
Et résultat, ce matin, les journaux des deux pays défendent ardemment la position de leur gouvernement.
Implacable riposte d'Alger, titre El Moudjahid, qui ne mâche pas ses mots. Reprenons à son compte les éléments de langage du pouvoir algérien. Je le cite, Assimi Goïta, donc le président de transition du Mali, cherche vainement à faire de l'Algérie un bouc émissaire pour éviter de rendre des comptes, je le cite toujours, au peuple malien sur sa gestion chaotique des affaires du pays depuis son coup d'état qu'il a perpétré en mai 2021. Ainsi, je cite encore la presse algérienne, la junte n'a pas trouvé mieux que d'accuser l'Algérie d'actions hostiles parce qu'elle n'a pas su protéger ses frontières en repoussant la violation de son espace aérien par un drone d'attaque. Fin de citation. Côté malien, le site Mali Web, dénonce une énième provocation du régime algérien, affirmant au passage qu'Alger n'a fourni aucune preuve de sa présence du dit drone malien dans son ciel. En réalité, les presses des deux pays donnent leur version des faits, heure par heure, point GPS par point GPS, sans que personne ne puisse réellement rien vérifier.
La revue de presse de Théo Renaudon.
RFI, toute l'actualité.
Clotilde Dumais.
Il est 6h48 en temps universel. Nous sommes le mardi 8 avril 2025. Dans l'actualité également aujourd'hui, le président français attendu à une cinquantaine de kilomètres de la bande de Gaza. Emmanuel Macron à l'avant-poste égyptien d'Al Arish pour demander le retour de l'aide humanitaire bloquée par Israël qui poursuit son offensive dans l'enclave palestinienne. La défense civile annonce 19 morts dans des frappes israéliennes depuis hier. La Chine dit refuser la pression, les menaces et le chantage des États-Unis. taxation, alors que Donald Trump menace d'alourdir encore l'addition, à 50% de taxes sur les importations chinoises si Pékin applique sa hausse de 34%. La Chine appelle au dialogue avec les États-Unis pour tenter de résoudre ce conflit commercial, alors que les bourses asiatiques réagissent plus ou moins bien aujourd'hui, après une journée très compliquée hier sur les marchés mondiaux. La bourse de Tokyo notamment a clôturé en hausse de 6% tout à l'heure. Le chef de la diplomatie iranienne aura un entretien indirect avec l'émissaire américain Steve Witkoff, annonce de Téhéran, alors que Donald Trump lui assure que les États-Unis sont en discussion directe avec l'Iran sur le programme nucléaire. Ce sera le 3 juin prochain, date retenue en Corée du Sud pour l'élection présidentielle anticipée. Un jour férié pour faciliter la participation au scrutin et désigner le successeur de Yoon Suk-yeol après sa destitution confirmée par la Cour constitutionnelle. La peine de mort n'avait pas été autant appliquée depuis près d'une décennie, conclusion du rapport annuel d'Amnesty International. L'ONG a dénombré en 2024 1518 exécutions de condamnés, soit un tiers de plus que l'année précédente. L'Europe, elle, a connu le mois de mars le plus chaud jamais enregistré, conclusion de l'observatoire Copernicus, même si cette hausse de la température a épargné la péninsule ibérique et le sud de la France. Et puis du football européen, début des quarts de finale aller de la Ligue des Champions, le Bayern Munich reçoit l'Inter Milan, Arsenal accueille le Real Madrid. L'Algérie se dit consternée. Crise ouverte entre le pays et les trois régimes putschistes du Sahel. On en parlait. Dimanche, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont accusé les Algériens d'avoir abattu un drone malien en territoire malien et ont donc rappelé leurs ambassadeurs à Alger, qui a répliqué hier en fermant son espace aérien à tous les avions en provenance ou à destination du Mali. Et dans la soirée, Bamako a décidé de faire de même. Alors pourquoi ce clash? Le Niger est-il prêt à une telle escalade? Et la France, dans tout cela, l'essayiste nigérien Sédic Abba, président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel, et votre invité Christophe Boisbouvier.
Sédic Abba, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi le torchon brûle entre Alger et Bamako?
Je crois qu'on peut situer la dégradation des relations entre les deux pays à la prise de Kidal en novembre 2023 par l'armée malienne. À la suite de cette prise de Kidal, les ex-rebelles s'étaient repliés sur la frontière algérienne et se sont réorganisés militairement. Pour Bamako, au bas mot, l'Algérie a fermé les yeux sur ses efforts de réorganisation.
Alors, depuis ce dimanche, il y a une nouvelle crise parce que les trois pays de l'AES ont rappelé leurs ambassadeurs à Alger et parce que l'Algérie vient de répondre du tac au tac. Pourquoi cette nouvelle montée de tension?
Oui, cette nouvelle crise est liée à un drone qui a été abattu dans la nuit du 31 mars au 1er avril. L'aviation algérienne a abattu ce drone au-dessus de la frontière commune. Et les deux pays sont d'accord sur cet incident, mais les versions divergent sur la localisation de l'endroit où le drone a été abattu. En tous les cas, le régime de Bamako a rappelé cette fois-ci en renfort les deux autres pays de l'AS, le Niger et le Burkina, pour créer un rapport de force plus favorable, parce que par le passé déjà, le Mali a eu à protester contre ce qu'il considère comme des actes d'hostilité de la part de l'Algérie, mais ça n'a pas changé. Ça veut dire qu'on s'installe dans une confrontation entre les pays de l'AS et le pouvoir algérien.
Alors vous parlez du Niger, est-ce que ce pays est prêt à l'escalade avec l'Algérie?
Non, je ne pense pas que le Niger soit prêt, parce que lorsqu'on regarde, il y a quand même des intérêts importants du Niger qui sont en jeu. Sur le plan diplomatique, le premier ministre nigérien, Ali Mahamane Zen, s'est rendu en août 2024 à Alger, à la tête d'une forte délégation. Il avait à l'époque été reçu par le président Debboune. Ça traduit quand même le réchauffement des relations diplomatiques au plan économique aussi. Le ministre nigérien du pétrole était à Alger en février 2025 et la Sonatra, qui a mené des prospections dans la partie nord du Niger, dans la région d'Agadez.
La compagnie algérienne Sonatra.
C'est ça, la grande compagnie de pétrole et des hydrocarbures algériennes, la Sonatra, a fait des prospections au Niger qui se sont révélées concluantes et il y a même eu un essai. Il est question de passer aujourd'hui au forage des puits et il est envisagé dans un schéma inédit que le pipeline soit connecté à partir du Niger au pipeline algérien. En plus de ça, la Sonatra est dans une perspective de former des Nigériens au métier du pétrole. Donc il y a sur le plan économique et politique un réchauffement avec Niamey qui, à mon avis, pourrait être affecté par cet alignement de Niamey sur Bamako dans le cadre de la solidarité inter-AES.
Depuis le dégel entre Alger et Paris, c'était ce week-end avec la visite à Alger du ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, l'Algérie et la France engagent un dialogue stratégique sur le Sahel. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ?
Je crois que comme la France n'a plus aucun canal de discussion avec le pays de l'AES, elle souhaite se rapprocher de l'Algérie parce que il y a des intérêts réciproques entre les pays de l'AES et l'Algérie. Et la France parie sur, justement, le retour à la normale entre les pays de l'AES et l'Algérie pour pouvoir faire passer des messages politiques et diplomatiques.
Mais au contraire, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un soutien de l'Algérie et de la France aux rebelles Touareg du FLA, le Front de Libération de l'Azawad?
Je pense que l'Algérie a toujours été très prudente dans le soutien à l'irrédentisme qu'il y a au Mali parce qu'elle-même, elle n'a pas fini de régler les questions irrédentistes qu'il pourrait y avoir dans son propre territoire national. Et je ne pense même pas que la France, d'ailleurs, a intérêt encore à aggraver la situation de ses relations avec le pays de l'AES.
Depuis 12 ans, Iyad Agrali, le chef du groupe djihadiste du JNIM, est protégé par l'Algérie. Est-ce qu'un rapprochement entre Alger et Paris pourrait se faire au détriment de ce chef djihadiste?
Je crois que c'est tout à fait possible. Iyad avait par le passé échappé de justesse à une élimination de forces françaises à la suite d'un couac avec l'Algérie.
C'était à Tamanrasset.
Iyad avait échappé justement à une élimination physique par les forces françaises. Et je crois que s'il y a un rapprochement intensif entre Paris et Alger, ça pourrait justement se faire au détriment d'un personnage comme Iyad qui a toujours été évalué comme une cible à haute intensité par la France et qui a échappé à l'élimination alors que d'autres chefs djihadistes importants ont été éliminés par l'armée française.
Sédik Abba, je vous remercie.
L'essayiste nigérien Sédik Abba, président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel, interrogé par Christophe Boisbouvier. Allez, avant un nouveau journal, on retrouve Maman. Les principes de la médecine Maman peuvent s'appliquer aux citoyens, mais aussi à leur pays.
Oui, en médecine, on apprend qu'il y a des symptômes communs à beaucoup de maladies et d'autres qui sont spécifiques à certaines d'entre elles, des symptômes qui font ton pied, mon pied, coller serré avec des affections. Pour les pays, eh ben c'est pareil. Par exemple, dès que tu vois des candidats aux élections battre campagne et sillonner le pays exclusivement en avion, en jet privé, c'est pas pour aller plus vite, mon ami. Ce n'est pas parce que le pays est trop vaste, ce n'est pas parce que ces candidats sont des milliardaires. Non, c'est juste parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Eh oui, peuvent pas prendre le train, il n'y a pas de train. Ils peuvent pas prendre leur voiture, parce qu'il n'y a tout simplement pas de route. Président fondateur n'a pas fait de route au Gondwana. Eh oui, t'as beau avoir les derniers 4x4 V8 avec tout le luxe dedans, toit ouvrant, frigo incorporé, tablette pour chaque passager, intelligence artificielle, GPS, système électronique anti-patinage, anti-collision, anti tout ce que tu veux, eh ben tu ne peux pas parcourir le pays de long en large pour apporter la bonne parole à tes électeurs parce qu'il n'y a pas de route en très très démocratique république. Il n'y a que des pistes et si tu persistes à vouloir prendre ta voiture pour aller découvrir le vrai pays, tu ferait mieux d'aller te présenter à Koh Lanta parce que là au moins tu seras filmé et au moindre bobo, tu seras secouru. Il n'y a pas de route au Gondwana. Oui, tu arrives à Gondwana City, notre belle capitale, en avion et tu en repars en avion, c'est tout. C'est pour ça que la plupart des Gondwanais qui sont venus de leur village, là-bas, loin, à l'intérieur, c'est pour ça que ces Gondwanais font des années et des années sans retourner au village. Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment plus leur village, non, ils ne peuvent pas y retourner parce qu'il n'y a pas de route au Gondwana. Et donc, au lieu de se farcir l'infernal aller-retour au village, ils préfèrent faire venir leur famille et après tout le monde cale dans la capitale. Ne sois donc pas étonné de voir la population de Gondwana City, notre belle capitale, grossir à n'en plus finir pendant que l'intérieur du pays se vide. C'est juste parce qu'il n'y a pas de route au Gondwana. Et comme il n'y a pas de route, il n'y a rien du tout en dehors de la capitale. Tu veux te soigner? Viens à Gondwana City, notre belle capitale. Tu veux étudier? Pareil, faire signer des documents, réparer ta voiture, demander un visa, envoyer du courrier à l'étranger, c'est Mad Max pour arriver à la capitale. Il n'y a pas de route au Gondwana. Même les urnes électorales sont obligées de prendre l'avion. Les seules routes qui relient les gens de la capitale à ceux de l'intérieur du pays, c'est le téléphone portable et les réseaux sociaux. Tu veux voir ta famille rester au village? Appel vidéo. Tu veux leur donner de l'argent? Mobile money. Il n'y a pas de route au Gondwana. C'est ça le vrai bilan de président fondateur. À demain.
Merci Maman, à demain. Dans moins de 2 minutes, un nouveau journal international. On va voir comment les bourses réagissent aujourd'hui après une journée noire sur les marchés hier. Un petit indice, en tout cas, la bourse de Tokyo, elle clôture en net rebond de 6%. À tout de suite.
L'Opinion et le Conseil français des investisseurs en Afrique organisent le 29 avril prochain le forum Investir en Afrique autour du thème « L'entreprise, moteur d'une croissance durable ». Un événement incontournable pour explorer les opportunités économiques et sociales du continent avec un focus sur la croissance durable. Plus d'informations et inscriptions sur le site de l'Opinion, rubrique « Événements », le 29 avril prochain à Paris, en partenariat avec RFI.
Salut, c'est Assalfo. Et revoilà le FEMIA. La 17e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo vous attend du 15 au 20 avril prochain à Abidjan et Daloa sous le thème civisme et sécurité routière. Cette année, vous aurez Angélique Kidjo, Caris, Smarty, Takana Zion, José, Imra et plein d'autres artistes pour mettre l'ambiance. Le FEMIA, c'est aussi le volet social avec l'inauguration des écoles primaires Magic System de Badika, Jacquesville et San Pedro.
En partenariat avec RFI. Anoumambo
est béni. C'est ça qui est la vérité.
Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
Des théâtres, des musées, des bibliothèques. En 3 ans de guerre en Ukraine, près de 500 sites culturels ont été détruits ou pillés. Comment restaurer ce patrimoine? Nous en parlerons avec la journaliste Irina Slavinska et avec Thomas Raguet qui signe le documentaire « Ukraine, la culture en guerre ».
Sur le Pont des Arts, avec Nathalie Amar. Du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.